Chapitre 13. Un siège.
Repoussez-les!
Cria Elaine. Angoissé d'être coincé dans une étroite ruelle pavée, avec d'autres chevaux et des femmes à pied, Cœur de Feu fit mine de piaffer, mais Elaine, d'une main ferme, l'en empêcha. Birgit avait insisté pour qu'elle reste très en arrière. Insisté, oui. Comme si elle était une pauvre idiote. Sur le chemin de ronde, au sommet du mur d'enceinte de la ville, aucun des innombrables gardes ne faisait attention à elle. D'ailleurs, Elaine doutait qu'ils l'entendent. Au-dessus des cris, des jurons et des hurlements de douleur, le vacarme des armes retentissait sur une bonne partie des fortifications. Sous un ciel sans nuages, une rareté ici où brillait le soleil de midi, des hommes en sueur s'entretuaient avec des épées, des lances ou des halbardes. La mêlée s'étendait sur 200 bons pas et englobait 3 des 8 tours de garde, au sommet desquels l'étendard au lion blanc battait au vent. Bientôt, la bataille en atteindrait 2 autres, mais par bonheur, elle semblait imprenable. Les hommes frappaient, tranchaient et taillaient, aucun ne semblant céder du terrain. En haut des tours, les arbalétriers en veste rouge faisaient un massacre, mais avec leur arme très longue à recharger, ils étaient trop peu nombreux pour arrêter les assaillants. Là-haut, ils étaient les seuls gardes. Les autres combattants, des mercenaires, à part Birgit. À si courte distance, le lien permettait à Elaine de localiser aisément sa championne. Ses tresses blondes oscillant tandis qu'elle criait des encouragements à ses hommes, Birgit désignait de la pointe de son arc les endroits où il y avait besoin de renfort. En veste rouge à col blanc et pantalon bleu ciel, elle était la seule, là-haut, à ne porter ni armure, ni cuirasse. Avant la bataille, elle avait insisté pour qu'Elaine revête une robe grise des plus ordinaires, afin qu'elle n'incite personne à la capturer ou à la tuer. Là-haut, certains des agresseurs avaient une arbalète ou un arc accroché dans le dos. Et pour ceux qui n'étaient pas en première ligne, 50 pieds, la hauteur de la muraille, c'était une distance de tir parfaite. Avec les 4 nœuds d'or qui indiquaient son grade, Birgit ferait une cible tentante pour tout homme d'Arimilla non frappé de cécité. Au moins, pour le moment, l'archère n'allait pas au contact. Encore que. Elaine eut le souffle coupé quand un type mince en cuirasse et casque conique bondit sur sa championne, une épée au poing. Très calme, l'héroïne blonde dévia le coup. Dans le lien, la fille héritière sentit le cœur de Birgit battre un peu plus fort, comme si elle avait lancé un cheval au galop sur un terrain accidenté, rien de plus. Puis, d'un revers de son arc, elle frappa son agresseur à la tempe et le fit basculer par-dessus les remparts. Avant de s'écraser sur le sol, l'homme eut le temps de crier. Dans la rue, ce n'était pas le premier cadavre, et de très loin. Selon Birgit, un chef ne pouvait pas se faire obéir s'il ne prenait pas les mêmes risques que ses soldats. Un raisonnement d'homme, ça. Si elle se faisait tuer à cause de ce blabla typique de... Jusqu'à ce que Cassey prenne Cœur de Feu par la bride, Elaine ne s'était pas avisée qu'elle le talonnait.
« Je ne suis pas une idiote, lieutenant de la garde !»
rugit-elle.
« Je n'irai pas plus près avant que ce soit fini !»
Le visage fermé derrière la grille de son casque conique, la jeune femme originaire de Larafel retira sa main. Aussitôt, Elaine regretta de l'avoir rudoyée. Après tout, Cassey faisait son devoir, rien de plus. Certes, mais la fille héritière était folle de rage, et elle ne s'excuserait pas. La puérilité de cette réaction lui apparaissant, elle eut un peu honte. Par le fichu sang et les fichus cendres. Par moments, elle aurait voulu gifler Rand pour le punir de lui avoir planté ses bébés dans le ventre. Ces derniers temps, elle passait d'une émotion à une autre en un clin d'œil, sans pouvoir prévoir laquelle.
« Si ça te fait ça d'être enceinte !»
dit Avienda, en tirant sur le châle noir qui enveloppait ses bras.
« Compte pas sur moi pour avoir un gros ventre !»
La selle à haut trousquin de sa jument baie faisait remonter ses jupes assez haut pour qu'on voie jusqu'aux genoux ses jambes gainées de bas, mais ça ne la gênait pas. Quand Magin ne bougeait pas, on aurait juré qu'Avienda était née sur un cheval. Certes, mais on aurait eu du mal à trouver une bête plus calme et placide que la jument, par ailleurs encline à un léger embonpoint. Coup de chance, Avienda était bien trop ignare en chevaux pour savoir que son assurance s'apparentait à du vent. Des rires étouffés incitèrent Elaine à regarder autour d'elle. Les 21 femmes de sa garde rapprochée, en comptant Cassey, qu'on lui avait affecté le matin, affichaient une parfaite impassibilité, trop parfaite même. En réalité, intérieurement, elle devait s'esclaffer. Derrière elle, 4 membres de la famille riaient aux éclats, une main sur la bouche. Toujours très douce et agréable, Alice, aux cheveux grisonnants, vit qu'Elaine les regardait, ses compagnes et elle. Les foudroyait du regard plutôt, et roula de gros yeux, ce qui augmenta l'hilarité des 3 autres femmes. Très jolie comme toutes les domanies, la rondette Kayden riait tellement qu'elle dut se retenir à Kumiko. Une idée peu judicieuse, parce que celle-ci avait également du mal à tenir debout. L'irritation d'Elaine s'aggrava. Pas à cause des rires. Bon, d'accord, ça jouait aussi son rôle. Et certainement pas en prenant pour cible les femmes de la famille. Encore que. Bon, mais juste un peu alors. Ces quatre femmes étaient si précieuses. L'attaque sur le chemin de ronde n'était pas le premier outrage d'Arimilla ces derniers jours. En fait, la fréquence augmentait, avec jusqu'à 4 assauts entre le lever et le coucher du soleil. Pas idiote, la prétendante au trône savait pertinemment qu'Elaine n'avait pas assez d'hommes pour défendre quelques 9 lieues de muraille. Que la lumière brûle cette femme. En réserve, la fille héritière n'avait même pas assez de mains compétentes pour renforcer cette partie des remparts avec des palissades. Pour un tel travail, des mains incompétentes auraient fait un désastre. Tout ce qu'Arimilla avait à faire, c'était introduire assez d'hommes en ville pour s'emparer d'une porte. Alors, elle pourrait livrer bataille dans les rues, faisant jouer à fond son avantage numérique. La population se rangerait peut-être dans le camp d'Elaine, mais ça ne changerait pas grand-chose. Sinon, ajouter des victimes, contre des militaires entraînés, des apprentis, des palefreniers et des boutiquiers n'aurait aucune chance. Alors, quelle que soit la femme qui s'assierait sur le trône du lion, très probablement ce ne serait pas Elaine Tracande, elle l'aurait d'abord souillée de sang. Celui de Kaemlyn et de son peuple. Du coup, à part les forces affectées à la défense des portes et à la surveillance sur les tours, Elaine avait regroupé tous ses hommes dans la cité intérieure, très près du palais royal où des guetteurs, en haut des flèches, sondaient les alentours avec leur longue vue. Dès qu'une sentinelle signalait une attaque, des membres de la famille formant un lien ouvraient un portail pour transférer des défenseurs là où on avait besoin d'eux. Bien entendu, ces femmes ne participaient pas au combat. Si elles l'avaient voulu, Elaine ne les aurait pas autorisées à utiliser le pouvoir comme une arme. Jusque-là, cette tactique fonctionnait, même si on était souvent passé près de la catastrophe. Kaemlyn, la basse, à l'extérieur de la muraille, était un labyrinthe de maisons, de boutiques, d'auberges et d'entrepôts, idéal pour dissimuler des soldats animés de mauvaises intentions. En 3 occasions, les braves d'Elaine avaient dû se battre à l'intérieur de la cité pour reprendre au moins une des tours. Chaque fois, ça s'était soldé par une boucherie. Elaine aurait bien fait incendier Kaemlyn la basse, mais les flammes auraient risqué de se répandre dans toute la cité et la dévaster, giboulée printanière ou pas. Toutes les nuits, les incendies éclataient en ville, et les maîtriser était assez difficile comme ça. Du sabotage, bien entendu. Enfin, mais ça passait avant tout, des gens vivaient toujours dans Kaemlyn la basse. Oui, malgré le siège. Et Elaine ne voulait pas entrer dans l'histoire sous les traits d'un monstre qui aurait détruit l'habitat de son peuple et tué des centaines d'innocents. Ce qui rongeait la fille héritière, c'était de ne pas avoir pensé plus tôt à utiliser les membres de la famille pour ouvrir les portails. Dans ce cas, elle n'aurait pas eu sur les bras les femmes du peuple de la mer, qui lui avaient en outre extorqué 1/2 lieue carrée de la terre sacrée d'Andorre. Pas la lumière, 1/2 lieue carrée. Pendant son règne, sa mère n'avait pas cédé 1 pouce carré de terre. Morgaz. Avec ce siège, Elaine n'avait même pas eu le temps de la pleurer convenablement. Même chose pour Lini, sa vieille nourrice. Ravin avait tué Morgaz, et sans nul doute, Lini était morte en essayant de la protéger. Même minée par l'âge, la nourrice n'aurait pas reculé, y compris face à un rejeté. Dans la tête d'Elaine, un des fameux proverbes de Lini retentit.
« Mon enfant, nul ne peut remettre le miel dans les rayons. »
Ce qui était fait ne pouvait être défait, et il fallait vivre avec.
« Nous y voilà !»
dit Kazei.
« Ils battent en retraite vers les échelles !»
La stricte vérité. Partout, des défenseurs repoussaient en direction des échelles les soldats qui avaient pris pied sur le chemin de ronde. Par endroits, on mourait encore, mais la bataille touchait à sa fin. À sa propre surprise, Elaine sentit qu'elle talonnait cœur de feu, et cette fois, nul ne fut assez rapide pour la retenir. Alors que des cris retentissaient dans son dos, elle galopa jusqu'à l'autre côté de la rue et mit pied à terre à la base de la tour la plus proche, acrobatiquement, sans attendre que sa monture se soit complètement arrêtée. Poussant la lourde porte, elle souleva l'ourlet de sa robe d'équitation et s'engagea dans l'escalier, qu'elle gravit sous l'œil ébahi des hommes postés dans de larges niches. Très spécifiquement, ces tours étaient conçues pour arrêter des envahisseurs arrivés par le haut et prétendant descendre pour prendre les défenseurs à revers. Enfin, les marches donnèrent sur une grande salle où prenait naissance un autre escalier tout au fond. En plastron et casque mâle assorti, 20 d'hommes, la première ligne de défense verticale, passaient le temps en jouant au dé ou en plaisantant comme s'ils n'étaient pas une bande de morts en instance. Dès qu'ils aperçurent Elaine, ces types se pétrifièrent, les yeux ronds.
« Madame, à votre place, je ne ferai pas ça !»
dit une voix rauque, alors qu'Elaine commençait à retirer la lourde barre qui bloquait la porte donnant accès au rempart. Ignorant ce conseil, la fille héritière retira la barre et ouvrit le battant. Une main voulut s'accrocher à sa jupe, mais elle se dégagea. Sur le chemin de ronde, il ne restait plus un seul assaillant. Debout, en tout cas. Partout, des morts et des blessés gisaient, et parmi eux, il y avait nécessairement des partisans d'Arimilla. Mais le fracas des armes s'était tu, et les mercenaires, pour la plupart, s'occupaient des blessés ou étaient assis sur les talons pour reprendre leur souffle.
« Secouez ces fichues échelles et remontez-les !»
beugla Birgit. Se penchant, elle décocha une flèche sur les hommes qui tentaient de fuir dans les ruelles de Kemlin la basse, au pied du chemin de ronde.
« S'ils veulent revenir !»
ajouta-t-elle en tirant une deuxième fois.
« Ils devront en fabriquer d'autres !»
Très peu de mercenaires obéirent. Sans cesser de tirer, l'archer s'adressa à Elaine.
« Je savais que je n'aurais pas dû te permettre de venir aujourd'hui. »
En haut des tours, les arbalétriers tiraient aussi, mais les entrepôts faisaient d'assez bons abris pour des assaillants en déroute. Elaine eut besoin d'un moment pour enregistrer la dernière phrase de Birgit et comprendre qu'elle s'adressait à elle.
« Et tu m'en aurais empêché comment ?»
demanda-t-elle, montée sur ses ergots. Son carquois étant vide, Birgit baissa son arc et se retourna.
« En te ligotant et en demandant à Vienda de s'asseoir sur toi. »
La Yelle, justement, venait de débouler sur le chemin de ronde. Même si l'aura du Saïdar l'enveloppait, elle serrait dans son poing son couteau à manche de corne. Kazei et les autres gardes rapprochés la suivaient, épée au poing et mine plus que grise. Voir qu'Elaine n'avait rien n'améliora pas leur humeur. Dès qu'il s'agissait de la traiter comme un vase précieux susceptible de se briser au moindre choc, ces maudites femmes n'en rataient pas une. Après cet épisode, elles seraient pires que jamais. Et qui devrait les supporter ?
« Je t'aurais rattrapé, » maugréa Avienda en se massant la hanche. « Mais ce cheval de malheur m'a désarçonné. »
Avec une jument si douce, c'était très peu probable. Avienda, à n'en pas douter, était tombée de selle toute seule. Dès qu'elle eut évalué la situation, elle rengaina son couteau et fit mine de ne l'avoir jamais tiré de son fourreau. Dans le même ordre d'idées, l'aura du Saïdar se dissipa.
« Je n'ai pris aucun risque, »
dit Elaine, en tentant de supprimer toute ironie de sa voix. Une mission impossible.
« Mine affirme que je porterai mes bébés jusqu'au terme. Tant qu'ils ne sont pas nés, je n'ai rien à craindre. »
Avienda acquiesça à contre-cœur, mais Birgit lâcha.
« Tant qu'à faire, j'aimerais que tu ne mettes pas ces visions à l'épreuve. Prends trop de risques et tu démontreras qu'elles sont fausses. »
Un monceau d'ânerie. Mine ne se trompait jamais. Ça, c'était garanti.
« C'était la compagnie d'Aldin Mieres, »
annonça un grand mercenaire avec un accent du Mourandi assez lourd mais plutôt chantant. Retirant son casque, il dévoila son visage étroit et long, orné d'une moustache en pointe tachetée de gris et soigneusement cirée. Rhys Abalaman, ainsi qu'il affirmait s'appeler, avait des yeux durs comme de la pierre et un éternel sourire bien plus semblable à un rictus. Ayant écouté la conversation entre la fille héritière et sa championne, il s'adressa à Birgit, mais jeta de fréquents coups d'œil à Elaine.
« Je l'ai reconnu sans peine. Un homme bien, ce Mieres. À ses côtés, j'ai combattu d'innombrables fois. Capitaine général !» Il était presque à la porte d'un entrepôt quand ta première flèche l'a foudroyé. C'est bien dommage.
Elaine fronça les sourcils.
Capitaine, il a choisi son camp, comme toi. Même si tu déplores la mort d'un ami, j'espère que tu ne regrettes pas ton choix.
Presque tous les mercenaires qu'elle avait postés hors de la ville, voire tous, l'avaient trahi pour Arimilla. Sa grande angoisse, désormais, c'était que sa rivale parvienne à corrompre des compagnies à l'intérieur de la cité. Aucun capitaine de mercenaires n'avait fait le moindre rapport en ce sens, mais selon maîtresse Arfor, il y avait eu des pourparlers, y compris avec Abalaman. Le Mourandien gratifia Elaine d'une courbette et d'un rectus, puis il fit un geste fleuri avec le manteau qu'il ne portait pas.
« Je me suis aussi très souvent battu contre lui, madame. Aujourd'hui, nous n'aurions pas hésité à nous entretuer. C'était une connaissance plus qu'un ami, en quelque sorte. Et je préfère toucher de l'or pour défendre des fortifications que pour les attaquer. »
« Capitaine ?» J'ai noté que certains de tes hommes ont une arbalète accrochée dans le dos. Aucun ne l'a utilisée, me semble-t-il.
Ce n'est pas dans les habitudes des mercenaires,
grogna Birgit. Dans le lien, Elaine sentit de l'irritation. Contre le capitaine ou contre elle? Franchement, elle n'aurait su le dire. De toute façon, le sentiment disparut. Depuis qu'elles avaient découvert qu'elles se reflétaient dans le lien comme dans un miroir, l'archer avait appris à contrôler ses émotions. Sans aucun doute, elle aurait aimé que son Aes Sedai fasse de même. Et ce n'était pas faute d'essayer du côté d'Elaine. Abalaman cala son casque contre sa hanche.
« Madame, quand on s'acharne sur un homme qui s'éloigne du champ de bataille, pour le capturer, ou pire encore, il arrive tôt ou tard, s'il survit, qu'il vous rende la monnaie de votre pièce, le jour où c'est vous qui tentez de sauver votre peau. Après tout, quand un guerrier s'enfuit, il n'est plus dans le jeu. »«
Mais il y reviendra le lendemain !»
s'écria Elaine.
« La prochaine fois, je veux que ces arbalètes servent à quelque chose !»
« À tes ordres, madame !»
fit Abalaman avec une courbette sans conviction.
« Si tu veux bien m'excuser, je dois aller voir mes hommes. »
Criant à ses gars de se bouger les fesses, le mercenaire s'éloigna, sans attendre l'autorisation d'Elaine.
« Jusqu'à quel point est-il fiable ?»
demanda celle-ci.
« Le même que tous les mercenaires. Si quelqu'un lui offre assez d'or, ce sera pile ou face. Et quand on lance une pièce, Matt Cotton lui-même ne peut pas dire ce qui arrivera.
Une étrange remarque. Elaine se demanda où était le jeune flambeur, et son cher Tom, et le pauvre petit Olver. Chaque nuit, elle priait pour qu'ils aient réussi à fuir les Séanchaniens, mais elle ne pouvait rien pour les aider, hélas. S'aider elle-même était déjà assez compliqué en ce moment.
« Tu crois qu'il m'obéira pour les arbalètes ?»
Birgit secoua la tête. Elaine en soupira de frustration. Donner des ordres en vain était une très mauvaise chose. À force, les gens prenaient l'habitude de désobéir. Approchant de sa championne, Elaine baissa le ton.
« Tu as l'air fatiguée, Birgit. »
Une remarque que personne d'autre ne devait entendre. Les traits tirés et les yeux cernés de l'archère, tout le monde pouvait les voir. Mais via le lien, Elaine sentait qu'elle était au bout du rouleau. Et il en était ainsi depuis des jours. La fille héritière éprouvait la même chose, comme si ses membres étaient en plomb. Entre elles, le lien reflétait plus que des émotions.
« Tu n'es pas obligé de mener en personne toutes les contre-attaques. Qui d'autre le ferait ?»
Un instant, la voix de Birgit avait tremblé. Ses épaules s'affaissant. Mais elle se reprit, un pur effort de volonté. Elaine le capta dans le lien. Un effort si violent qu'elle en eut les larmes aux yeux.
« Mes officiers sont des genoux sans expérience, »
continua l'archère.
« Ou des vieux types rappelés de la retraite, qui devraient être en train de se réchauffer les os devant la cheminée de leurs petits-enfants. Les capitaines des mercenaires sont plus alertes, mais je ne leur tournerai pas le dos sans que quelqu'un les tienne à l'œil. Ce qui nous ramène à la case départ. Qui d'autre que moi ?»
Elaine ouvrit la bouche pour polémiquer. Pas au sujet des mercenaires. Sur ce point, Birgit l'avait convaincue. Parfois, ses soldats de fortune pouvaient se battre avec autant de rage que les gardes. En d'autres occasions, ils se débandaient plutôt que d'essuyer trop de pertes. Car si leur nombre diminuait, à leur prochain engagement, ils touchaient moins d'or tant qu'ils n'avaient pas remplacé les morts. Du coup, des batailles presque gagnées avaient été perdues à cause de leur défection. Tout ça pour préserver leurs effectifs. Heureusement, ils se comportaient rarement ainsi en présence de témoins. Pour préserver leur réputation, bien entendu, et ne pas entamer leur valeur marchande. Cela dit, pour qu'ils soient fiables, il fallait bel et bien que quelqu'un les surveille. Birgit, oui, sauf qu'elle finirait par s'évanouir de fatigue. Ah, si Garrett Bryn avait été là. Et Gwen avait besoin de lui, mais elle n'était pas la seule. Au moment où Elaine allait parler, des explosions retentirent en ville. Se retournant, la fille héritière en resta bouche bée. Alors que la cité intérieure, quelques instants plus tôt, se dorait au soleil sous un ciel dégagé, de gros nuages noirs déversaient des trombes d'eau ponctuées par des éclairs et des roulements de tonnerre. Sous ces intempéries, on ne distinguait plus les dômes dorés du palais royal. Curieusement, cet orage visait uniquement la cité intérieure. Partout ailleurs, le ciel était radieux. Il n'y avait rien de naturel là-dedans. Elaine sortit promptement de son hébétude. Sans relâche, des éclairs bleus à 3 ou 5 branches frappaient la cité intérieure, faisant des dégâts et peut-être même des morts. D'où venait cet orage? Afin de les disperser, Elaine s'unit au Saïdar. Mais la source se refusa à elle, lui glissant entre les mains comme une anguille. Dès qu'elle pensait l'avoir saisie, elle lui échappait. Une avanie qui arrivait trop souvent ces derniers temps.
« Avienda, tu peux t'en occuper ?»« Bien entendu. »
La Yel s'unit en un clin d'œil à la source. Honteuse d'en éprouver de la jalousie, Elaine se rappela que c'était Rand le coupable, pas sa sœur d'élection.
« Et merci, j'ai besoin d'entraînement. »
Un pieux mensonge pour ménager la susceptibilité d'Elaine. Avec une fluidité remarquable, mais bien plus lentement que l'aurait fait la fille héritière, Avienda s'attaqua à un tissage complexe d'air, de feu, d'eau et de terre. Avec le climat, la Yel était beaucoup moins douée qu'Elaine. Logique, puisqu'elle n'avait pas bénéficié des lumières des femmes du peuple de la mer. Bien entendu, les nuages ne se volatilisèrent pas en un clin d'œil. D'abord, les éclairs devinrent plus normaux, puis ils cessèrent. La partie du travail la plus délicate. Invoquer la foudre revenait à faire tourner une plume entre ses doigts. La bannir, c'était réaliser le même exercice avec une enclume. Soudain, les nuages commencèrent à devenir moins épais et plus clairs. Un processus assez lent, là encore. Avec le climat, précipiter les choses risquait de répandre le phénomène sur des lieux, et on ne pouvait jamais dire quelles seraient les conséquences. Une tempête, des inondations, une douce chaleur, une brise agréable. En d'autres termes, c'était une loterie. Lorsque les nuages atteignirent le mur d'enceinte, il n'était plus que légèrement gris, et déversait un crachin qui trempa néanmoins les boucles blondes d'Elaine.
« Ça suffira ?»
demanda Avienda, en inclinant la tête pour laisser la pluie ruisseler sur ses joues.
« J'adore regarder l'eau tomber du ciel. »
« Vraiment ? Sans jamais se lasser ?» Depuis le début du printemps, il pleuvait tous les jours.
« Elaine, il est temps de retourner au palais, »
dit Birgit. Après avoir débandé son arc, elle glissa la corde dans sa poche, une saine précaution contre l'humidité.
« Plusieurs hommes ont besoin des soins d'une sœur, et mon petit déjeuner semble remonter à 2 jours. »
Elaine plissa le front. Dans le lien, elle capta tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Birgit n'en pouvait plus. Mais ce qu'elle voulait surtout, c'était éloigner la fragile future maman de la pluie, comme si elle risquait de fondre. Soudain, la fille héritière prit conscience des gémissements des blessés. Ces hommes avaient vraiment besoin de soins. Même si elle avait pu canaliser, la moins grave de leurs blessures était bien au-delà de ses compétences. Et en matière de guérison, Avienda ne valait pas mieux qu'elle.
« Oui, il est temps »,
dit la fille héritière. Si seulement elle avait pu de nouveau contrôler ses émotions. Sûrement que Birgit ne s'en serait pas plainte. Elle avait rosi à cause de la honte de son Aes Sedai. Le front plissé comme Elaine, Birgit la précéda à l'intérieur de la tour. Dehors, Cœur de Feu et Magin attendaient patiemment là où on avait laissé tomber leur reine. Rien que de très normal avec des chevaux bien dressés. Un moment, Birgit et Elaine restèrent seules avec les gardes rapprochés, puis Alice et les autres femmes de la famille déboulèrent d'une venelle. Dans la rue, on n'apercevait pas l'ombre d'un chariot ou d'une charrette, et toutes les portes étaient fermées. Des volets occultaient toutes les fenêtres, y compris celles de maisons qui devaient être vides. Dans le coin, presque tous les citadins avaient eu le bon sens de détaler dès qu'il était devenu évident que des centaines d'hommes s'entreturaient au-dessus de leurs têtes. Un rideau bougea pourtant, révélant brièvement un visage de femme. Certaines personnes se régalaient des spectacles morbides. En conversant à voix basse, les quatre femmes de la famille se placèrent à l'endroit où ils avaient ouvert leur portail quelques heures plus tôt. Avisant les cadavres sur les pavés, elles hochèrent la tête, mais ce n'étaient pas les premiers morts qu'elles voyaient. Aucune de ces femmes n'aurait pu passer l'épreuve d'accepter. Pourtant, elles se montraient calmes et confiantes, aussi dignes que des sœurs, malgré la pluie qui leur collait les cheveux sur le crâne. Depuis qu'elles avaient appris le plan des Gwen les concernant, la famille, associée à la tour, deviendrait un lieu d'accueil pour les Aes Sedai retraités, ces femmes s'inquiétaient beaucoup moins pour leur avenir. Surtout quand on leur avait précisé que leur règlement resterait en vigueur, les anciennes sœurs étant tenues de le respecter. Si toutes ces femmes ne croyaient pas au lendemain qui chantait, ce dernier mois, sept d'entre elles étaient parties sans un mot ni un message, la plupart s'étaient laissées convaincre, et la foi leur avait redonné du cœur au ventre. En outre, se voir confier une mission leur avait rendu leur fierté. Elaine n'avait pas pris conscience de leur souffrance, jusqu'au jour où elles avaient cessé de se voir comme des réfugiés qui dépendaient entièrement d'elles. Depuis, toutes ces femmes marchaient la tête haute, et leurs regards n'étaient plus voilés par l'inquiétude. Hélas, elles avaient aussi beaucoup moins tendance à se prosterner devant les sœurs. Cela dit, cette réaction était antérieure à la découverte du plan des Gwen. Encline à tenir les Aes Sedai pour des êtres supérieurs, les membres de la famille avaient vite découvert que le châle ne suffisait pas à faire d'une femme plus que ce qu'elle était au départ. Alice dévisagea Elaine, pinça un moment les lèvres, et lissa le devant de sa robe alors qu'il n'avait pas le moindre pli. Elle s'était insurgée parce qu'on avait autorisé par la lumière, Elaine à venir ici. Et Birgit avait failli céder. Quand elle s'y mettait, Alice renversait tout sur son passage.
« Capitaine Général, on peut y aller ?»«
On peut, oui, »
répondit Elaine. Alice attendit que Birgit ait acquiescé, puis elle ignora superbement la fille héritière. Décidément, Nineveh aurait dû s'abstenir de regonfler le moral de ses femmes. Dès qu'elle se reverrait, Elaine aurait quelques mots à lui dire. Le portail apparut et s'ouvrit pour dévoiler la cour des écuries principales du palais. Mais ce qu'on voyait de l'arche d'entrée d'un des bâtiments semblait un peu décalé, selon Elaine. Une fois qu'elle eut franchi le portail, elle comprit pourquoi. Dans la cour, il y en avait un autre, légèrement plus petit. Dans les cas de ce genre, la seconde ouverture était décentrée, afin que les deux structures ne se touchent pas. Cela dit, l'intervalle entre les deux restait plus fin qu'une feuille de parchemin. Du premier portail se déversait une colonne de cavaliers qui se dirigeait aussitôt vers l'arche de sortie des écuries. Si certains de ces hommes seulement paradaient dans un plastron étincelant comme leur casque, tous arboraient la veste rouge à col blanc des gardes de la reine. Deux nœuds d'or sur l'épaule gauche, un grand type costaud, casque calé contre la hanche, les regardait défiler.
« Un spectacle revigorant pour des yeux fatigués », murmura Birgit.
Des petits groupes de femmes de la famille écumaient les campagnes pour rassembler les soutiens d'Elaine. Mais c'était une opération hasardeuse. Jusque-là, ces femmes avaient parlé de dizaines et de dizaines de groupes désireux d'entrer en ville. Hélas, elle n'en avait trouvé que 5, pour moins d'un millier d'hommes en tout. Depuis qu'on savait combien de soldats Arumila avait placés autour de la ville, les partisans de la maison Trakhand faisaient profil bas, et on pouvait les comprendre. Dès qu'Elaine et son groupe apparurent, des palefreniers en uniforme rouge orné du lion blanc accoururent. La bouche édentée, une couronne de cheveux blancs sur la tête, un vieux type maigrichon vint prendre les rênes de Cœur de Feu. Tenant l'étrier d'Elaine, une femme grisonnante l'aida à mettre pied à terre. Ignorant la pluie, la fille héritière pataugea dans les flaques d'eau pour rejoindre l'officier. Les cheveux collés sur le crâne, c'était un jeune homme encore très loin de l'âge mûr.
« Que la lumière brille sur toi, lieutenant. Quel est ton nom? Et combien d'hommes nous amènes-tu? Pour commencer, d'où viennent-ils ?
De l'autre côté du plus petit portail, Elaine distingua une double colonne de cavaliers qui s'étirait à perte de vue. Dès que deux hommes avaient franchi le passage, de nouveau les remplaçaient, à la fin visible de la colonne. Comment était-il possible qu'il y ait eu tant de gardes éparpillés ça et là ?
« Je me nomme Charles Gibbon, votre majesté. »
Il mit un genou à terre et posa sur les pavés une main gantée.
« À Haringill, le capitaine Kinlin m'a autorisé à tenter de rallier Kemlin. Après que nous eûmes appris l'évasion de Dame Nayan et des autres. »
Elaine éclata de rire.
« Relève-toi, mon ami. Je ne suis pas encore sur le trône. »
À Haringill, là-bas, il n'y avait jamais eu beaucoup de gardes.
« À vos ordres, majesté, madame. »
Une fois debout, Gibbon se fendit d'une courbette plus appropriée face à une fille héritière.
« On ne pourrait pas continuer à l'intérieur ?»
maugréa Birgit. En plus des bandes jaunes sur les poignets de sa veste, l'officier remarqua les nœuds qui témoignaient du grade de l'archère. Du coup, il la salua et elle lui répondit brièvement, un bras posé en diagonale sur la poitrine. Sans doute surpris de voir une femme si haut dans la hiérarchie, Gibbon eut la sagesse de ne pas le montrer.
« Je suis trempé jusqu'aux os !»
insista Birgit.
« Et toi aussi, Elaine ?»
Derrière la fille héritière, Avienda semblait moins chérir la pluie, maintenant que son chemisier trempé lui collait à la peau au-dessus de sa jupe gorgée d'eau qui pesait des tonnes. À part les huit qui resteraient avec Elaine jusqu'à ce qu'on les relève, les gardes rapprochés conduisirent leurs chevaux à l'abri. Sur ces étranges militaires, Gibbon s'abstint également de commentaires. Jeune mais sage, ce gaillard. Elaine se laissa entraîner jusqu'à la colonnade qui permettait d'entrer dans le palais. Même là, ses protectrices la couvèrent, quatre marchands devant et quatre derrière. Idéal pour se sentir prisonnière, ça. Une fois au sec, la fille héritière s'immobilisa. Elle voulait entendre les réponses de Gibbon. Avec une infime quantité de pouvoir, songea-t-elle, sécher ses vêtements serait un jeu d'enfant. Hélas, la source se refusa de nouveau à elle. Avienda ne connaissant pas ce tissage, il allait falloir attendre ici, trempé comme une soupe. Avec la pluie et les lampes pas encore allumées, l'endroit était très sombre. À tout hasard, Gibbon tenta de se peigner avec les doigts. Pas la lumière. Ce garçon était proche de la perfection. Même avec la lassitude qui voilait ses yeux noisettes, son visage semblait taillé pour sourire. Mais il semblait ne plus l'avoir fait depuis longtemps.
« Le capitaine Kinlin m'a permis de retrouver les hommes que Gabriel a démobilisés. Dès que j'ai eu commencé, ils ont accouru. Madame, vous seriez surprise en apprenant combien de ces gars avaient rangé leur uniforme dans un coffre, avec l'espoir de le remettre un jour. Beaucoup avaient gardé leur équipement. Un délit, si on s'en tient au règlement. Mais je les en félicite. Quand j'ai eu vent du siège, j'ai craint d'avoir attendu trop longtemps. » Alors que je songeais à me frayer un chemin par les armes jusqu'à une porte, maîtresse Zigan et ses compagnes m'ont trouvé.
L'officier hésita.
Quand je l'ai appelée sœur, elle a paru troublée. Mais c'est bien le pouvoir de l'unique qui nous a amenés ici.
C'est bien lui, oui. Mais Zigan n'est pas une sœur,
répondit Elaine, évasive.
Combien d'hommes t'accompagnent ?
4762 gardes, madame. En chemin, j'ai rencontré beaucoup de seigneurs et de dames qui tentaient aussi de rallier Kemlin avec leurs forces. N'ayez aucune crainte. Avant de les prendre avec moi, je me suis assuré qu'ils vous sont loyaux. Il n'y a aucune grande maison dans le lot, mais en tout, ça fait quand même quelques 10 000 hommes.
Tout ça dit sur le ton de la conversation. Alors qu'il devait y avoir 40 chevaux en état de galoper dans les écuries, ce type déboulait avec 10 000 hommes. Elaine éclata de rire et tapa dans ses mains.
« Merveilleux, capitaine Gibbon !»
Harry Mila avait toujours l'avantage numérique, mais la marge se resserrait.
« Lieutenant, madame, je ne suis que lieutenant. »
« Non, dès cet instant. » Tu es le capitaine, Gibbon.
Et mon second,
ajouta Birgit.
Au moins provisoirement. Tu t'es révélé plein de ressources. Tu es assez vieux pour avoir de l'expérience, et j'ai besoin de tout ça.
Stupéfié, Gibbon s'inclina quand même en balbutiant des remerciements. À dire vrai, un lieutenant si jeune aurait dû servir 10 ou 15 ans de plus avant d'être promu capitaine. Quant à devenir le second du capitaine général, même à titre temporaire.
À présent, dit Birgit, nous devrions tous aller mettre des vêtements secs. « Surtout toi, Elaine. »
Dans le lien, la fille héritière sentit une fermeté qui ne lui dit rien de bon. S'il le fallait, l'archère était prête à la tirer par les cheveux. La colère montant en flèche, Elaine parvint à se contrôler. Elle venait pratiquement de doubler ses forces. Pas question que quelqu'un lui gâche sa joie. De plus, des vêtements secs, ce ne serait pas désagréable du tout.